on arrive à la crise alimentaire. Donc c'est au premier semestre 2008 qu'elle s'est déclenchée largement dans plusieurs dizaines de pays. Pour vous donner juste un chiffre, en une journée, le 27 mars 2008, le prix du riz a augmenté de 31% sur le marché mondial. Et comme c'est ce prix qui est répercuté évidemment à la vente sur les petits marchés locaux, vous comprenez les effets pour les populations. Le pétrole, le baril de pétrole a atteint un sommet le 3 janvier 2008, le 3 juillet 2008 à 146 dollars le baril. Évidemment, ceux qui ne produisent pas du pétrole doivent importer du pétrole. Et ils le payent à 146 dollars le baril. Alors on a invoqué pour la crise alimentaire des fausses raisons, des fausses explications. Il y en a deux importantes. La première, c'est les déréglementations climatiques. Alors ce n'est pas la crise climatique dont on va parler après, mais on a dit voilà, il y a eu des sécheresses, il y a eu des inondations en Australie, en Ukraine, et du coup on a produit moins de céréales, on a donc le principe de l'offre et de la demande, les prix sont partis à la hausse. Enfin bon, ce n'est pas la première fois qu'il y a des déréglementations climatiques comme des sécheresses et des inondations, et jamais la crise a eu une telle ampleur. On nous a dit aussi, c'est parce que la Chine et l'Inde commencent à foutre le bordel. Ils mangent de la viande, vous vous rendez compte? Maintenant les Chinois et les Indiens, ils mangent de la viande. Avant, ils ne mangeaient pas de viande. Maintenant, ils font comme nous. Mais oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils sont tous mis à manger de la viande, non plus. Donc là non plus, ce n'est pas du tout un argument recevable, d'autant plus qu'aujourd'hui, la Chine et l'Inde sont toujours des exportateurs d'aliments. Ils sont partis de bas, ils consomment effectivement davantage de viande, mais ils sont toujours exportateurs. Alors, il y a trois raisons qui peuvent être mises en avant pour la crise alimentaire. La première, c'est les agrocombustibles. Bon, je ne dis pas les biocarburants, parce que bio, il y a un côté positif à biocarburants. Les nécrocombustibles, certains disent, ou les agrocombustibles. C'est effectivement une logique désastreuse qui consiste à prélever les aliments destinés à l'alimentation pour en faire des combustibles. Bon, je pense que l'impact du développement des agrocombustibles est encore limité. Les surfaces sont de plus en plus importantes pour les agrocombustibles, mais ça reste à l'échelle de la planète, quelque chose de limité. Ça risque d'avoir de plus en plus d'importance et il faut se mobiliser contre ces agrocombustibles, mais ce n'est certainement pas encore un élément déclencheur de la crise de 2008. Un des éléments déclencheurs, c'est la spéculation internationale. Quand il y a eu, en 2000, la chute brutale des bourses dans le monde, c'était l'éclatement de la bulle Internet. Et donc, vous assistez à des capitaux volatiles comme ça qui viennent s'investir sur les domaines où ils vont pouvoir faire un maximum de profit. Jusqu'en 2000, on pensait que c'était la fameuse nouvelle économie. Et puis en 2000, on s'est dit, bon ben voilà, on a fait ce qu'on avait à faire avec. Un premier qui a commencé à se barrer pour aller ailleurs. Et du coup, tout le monde s'est barré et ça a provoqué un effondrement des bourses à ce moment-là. Le sommet a été atteint en mars 2000 pour la plupart des bourses occidentales. Suite à l'éclatement de cette bulle Internet, eh bien, la plupart des spéculateurs ont identifié les marchés de matières premières comme un marché qui était potentiellement profitable pour eux. C'est-à-dire que comme les cours avaient baissé pendant 25 ans, ils étaient à un niveau ridiculement bas, ils se sont dit, mais là, il y a de l'argent à faire. Donc, ils ont commencé à investir sur les marchés des matières premières, qui sont pour la plupart, là aussi, dans les pays du Nord, même si c'est au Sud que les impacts sont les plus terribles. On sait que les céréales, par exemple, c'est à Kansas City, ou à Minneapolis, ou à Chicago, sur ces bourses-là, que le cours des céréales est décidé, ou à Osaka, au Japon, ou à Hong Kong, etc. Et donc, cette spéculation massive sur les cours des matières premières a fait repartir les cours à la hausse, et du coup a pu déclencher la crise de 2007-2008. Pour vous donner un drôle d'idée, entre fin 2003 et fin mars 2008, les prix des biens primaires ont augmenté de 183%. Donc ça, suite à la spéculation internationale. Et puis la deuxième cause importante de la crise alimentaire, c'est l'ajustement structurel dont on a parlé tout à l'heure. Parce que quand le FMI a imposé des programmes d'ajustement structurel dans quasiment tous les pays du Sud, soit au début des années 80, soit dans les années 90 pour les pays asiatiques, eh bien on a imposé la réduction des surfaces vivrières. Donc évidemment, en période de crise, les impacts sont démultipliés. On a imposé la fin de tous les systèmes de stabilisation des prix. Il y avait notamment en Afrique, ce qu'on appelait le STABEX, qui permettait de stabiliser les prix. Quand les cours commençaient à baisser, eh bien on réinjectait des marchandises sur le marché. Au contraire, on faisait des stocks quand les cours montaient haut pour qu'ils soient relativement stables et qu'il n'y ait pas justement de grandes variations. On a supprimé tous ces organismes de stabilisation des prix. On a mis fin à l'autosuffisance alimentaire en ouvrant les frontières en permettant à des marchandises largement subventionnées du Nord de remplir tous les marchés des pays du Sud. On a mis en péril les producteurs locaux puisque leurs produits à eux étaient plus chers bien souvent que les produits subventionnés qui venaient du Nord. Et donc ça a été la fin de l'autosuffisance alimentaire. On a supprimé les silos à grains qui permettaient justement de réguler le marché intérieur. On a supprimé les organismes de crédit public aux petits paysans. On a ouvert les frontières, on a supprimé les barrières douanières et on a imposé des accords commerciaux. Aujourd'hui encore, donc ça va être l'ALENA avec le Canada, les États-Unis et le Mexique, voir la situation de la production de maïs au Mexique qui est dramatique aujourd'hui. Et puis tous les accords de partenariat économique que les grands pays comme l'Amérique du Nord ou l'Union européenne imposent de plus en plus aux pays du Sud. Au Mexique, pour donner un ordre d'idée, il y a 2,6 millions de familles, qui représentent à peu près 10% de la population, qui ont arrêté de se nourrir au moins une journée par semaine, notamment suite à la modification de la production du maïs dans ce pays-là, puisque le maïs était l'aliment de base. Alors, parmi les solutions qu'on peut avancer, nous, on a repris les idées de Via Campesina dans ce domaine-là. La souveraineté alimentaire, bien sûr, une réforme agraire radicale. On ne pourra pas faire l'économie d'une réforme agraire radicale si on veut trouver des solutions aux problèmes alimentaires dans le monde. Tout ça, c'est détaillé et je vous reporte aussi au texte de Via Campesina qui